Parfois, un adultère imaginaire cause bien plus de dégâts qu'un 5 à 7 vite fait bien fait. Par exemple, si la princesse de Clèves avait simplement cédé aux propositions malhonnêtes de ce serial dragueur de Nemours, elle aurait provoqué beaucoup moins de catastrophes. Car c'est pour éviter l'adultère que la vertueuse princesse avoue à son mari qu'elle aimait Nemours plus que lui. Du coup, l'époux, désemparé par tant d'honnêteté, mourut carrément de chagrin. Et pour se punir de l'avoir involontairement zigouillé, la noble veuve courut s'enterrer dans un lugubre couvent. Mais le sort de l'amant ne fut pas plus reluisant, car à force d'être repoussé par une femme qui semblait pourtant l'aimer, le duc de Nemours a fini complètement déboussolé et dégoûté de la bagatelle. Une perte irréparable pour toutes les dames légères de la cour d'Henri II. Et parmi les victimes collatérales de la princesse de Clèves se trouvent également aujourd'hui ces pauvres fonctionnaires contraints d'en étudier l'histoire contée par Madame de Lafayette pour préparer leurs examens. Ils ont dû pleurer toutes les larmes de leur corps en lisant ce terrible récit d'un adultère inassouvi. Voilà de quoi dévergonder une nation tout entière. Alors, au programme ce soir, on se marie moins, on se quitte davantage, mais on continue de s'accrocher à l'idée de fidélité, un peu comme une valeur refuge. Et pourtant, l'adultère se porte très bien, n'est-ce pas, Mauduit ? Une question liturgique et non de circonstance, cher ami.
Hello, mon gars, vous avez raison de ne pas jeter la pierre sur la femme adultère, parce que bah, je me laisserai pris en pleine face. Voilà. Bon, souvenez-vous, Philippe, Jésus, le premier, a appelé au pardon pour la femme adultère. Évangile selon Jean. Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Argument de poids, ça fonctionne ça. Bon, bien sûr, dans l'exégèse de ce texte biblique, on trouve le grand Georges Brassens. Ne jetez pas la pierre sur la femme adultère, je suis derrière. Avec évidemment dans ses paroles une lecture triviale qui donne tout de suite son sens au mot cocu. Oui. Mais aussi la mise en exergue des inégalités de la condition humaine qui font que certains hommes, les trop grands, se mangeront une caillasse tandis que les autres, les petits, seront protégés. Vous voyez à qui je fais allusion ?
Oui.
Les tout petits, là, qui peuvent se planquer.
Voilà.
Le couple, dessiné par Albert Dubout, évidemment. Hein, car là-dessus, pas d'hésitation, le couple à la Dubout, c'est le tout petit bonhomme caché derrière sa toute grosse femme. Vous voyez à quoi ça ressemble. Voilà. Bon, ce soir, pour nous parler de l'adultère, nous recevons l'historienne Agnès Valk, maître de conférences habilité à la direction de recherche et auteur chez Perrin d'une histoire de l'adultère du 16e au 19e siècle. Avec cette étude, Agnès Valk apporte une belle pierre à l'édifice qu'est l'histoire sociale et culturelle, à l'histoire du genre aussi, rien acheté.
Eh bien, soit, découvrons l'histoire de l'extra-conjugalité en compagnie ce soir d'Agnès Valk, que voici.
Quand une femme désire que son mari ne la trompe pas, qu'elle prenne son chat et le cache pendant 2 jours sous une cuve à lessive, sans manger et sans boire, qu'elle y attache ensuite les 4 pattes ensemble, bien enduites de beurre, et qu'elle lui donne du pain trempé dans son urine et rien d'autre. Il sera si affamé qu'il le mangera. Et dès que cela se sera produit, le mari aimera tant sa femme qu'il ne l'abandonnerait pour aucune autre. Évangile des Quenouilles, 1480. Bonsoir.
Agnès Valk, bonsoir. Merci pour cette belle lecture et bienvenue chez nous. À vous, Mauduit.
Bonsoir, Agnès Valk. Alors, vous êtes historienne et vous travaillez sur l'adultère. L'adultère, mais objet à dissimuler. On planque les SMS, on efface les mails. Il y a peu de traces de l'adultère. Comment l'historienne recherche et traque l'adultère dans les sources ?
Très difficile, hein. Très difficile, parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui est caché. Hein. On ne va pas révéler l'infidélité au grand jour, parce que ça, on risquait très très cher hein, dans l'ancien temps. Peut-être moins maintenant, mais dans l'ancien temps. Alors, il faut trouver des sources, il faut contourner un peu les sources, il faut en trouver. Moi, j'en ai trouvé de très belles. Ce sont les archives judiciaires, des sources de procès, qui sont un petit peu, je dirais, à côté d'adultère, parce que quand il y a procès, c'est que l'adultère est jamais très net et jamais très clair.
Oui, il y a des crimes, par exemple.
Il y a des crimes, et puis il y a des maris qui n'hésitent pas à s'affubler du nom de cocu pour envoyer leur femme en prison. Enfin, à l'époque, c'était dans les couvents, ça ressemblait à des prisons, et pour récupérer l'argent, les dots, etc. Donc souvent, ce sont des histoires qui révèlent des incompatibilités d'humeur entre les maris et les femmes, des problèmes de gros sous, d'héritage, etc.
Alors, bien sûr, Agnès Valck, la perception de l'adultère a changé au fil du temps. C'est ce qui, en tous les cas, transparaît dans votre livre. Et une des meilleures façons d'apercevoir ce changement, c'est peut-être de s'intéresser à l'évolution de la répression. C'est ce que vous faites également dans le livre. Alors, on ne va pas remonter au code d'Amourabi, même si c'est intéressant, puisque 38 siècles, hein, je crois, le code d'Amourabi, si je ne dis pas de bêtises, la femme adultère est condamnée à la noyade. Mais est-ce qu'on peut se concentrer sur votre période d'études, hein, 16e, 19e ? Est-ce que vous pouvez nous retracer un petit peu l'évolution de cette répression de l'adultère, Agnès Valck ?
Oui. Alors, j'ai pris cette période d'études 16e, 19e siècle, parce qu'elle est cohérente. Hein. À partir du 16e siècle, c'est l'État royal qui récupère à son profit toutes les causes matrimoniales de la conclusion des mariages à leur, alors pas dissolution puisque la dissolution du mariage n'existe pas, mais en tout cas aux échecs du mariage à travers l'adultère. Et donc se met en place une législation, je ne sais pas si le terme est très bon, mais une législation qui est la suivante, elle s'appelle l'authentique. Elle ne concerne que les femmes parce qu'il n'y a que les femmes qui sont poursuivies et elle consiste à authentiquer la femme, c'est-à-dire à la renfermer dans un couvent pour le reste de ses jours, après souvent lui avoir fait subir quelques dégradations, alors du style la tête rasée, des coups de fouet. Mais enfin bon, le fouet disparaît vers le 17e, 18e siècle, on ne fouette plus tellement les femmes adultères. Et ben, tout ça continue jusqu'à la Révolution française, qui est une petite parenthèse un peu enchantée, puisque l'adultère est décriminalisé pendant la Révolution française. Il n'y a plus de procès, il n'y a plus de législation contre l'infidélité. Et puis le code Napoléon et le code pénal qui suit en 1810, qui suit le code Napoléon, réintroduit exactement des pratiques qui sont à peu près identiques à celles de l'Ancien Régime, c'est-à-dire une poursuite devant un tribunal correctionnel avec une peine qui peut aller de 3 mois à 2 ans de prison pour la femme adultère. Alors je signale simplement qu'il n'y a pas, c'est une époque où il n'y a pas de divorce, donc les époux restent néanmoins mariés.
Ils sont aussi sanctionnés indirectement, en fait. Double
oui,
sanction.
Double sanction. Oui, d'où le paradoxe. Et c'est vrai que dès le 18e siècle, les philosophes, et encore au 19e siècle, il y a beaucoup de penseurs, je dirais, sociaux qui vont essayer de lever ce paradoxe de ce mariage totalement indissoluble qui est invivable quand, effectivement, les conjoints, l'homme comme la femme d'ailleurs, se mettent à aller papillonner à droite et à gauche. Et
on pourrait terminer quand cette histoire de l'adultère comme crime ? Ça se termine quand ?
En réalité, c'est totalement dépénalisé en 1975. Mais comme crime, c'est en gros quand même dans les années 1880, avec l'instauration du divorce en 1884, parce qu'à ce moment-là, l'adultère est reconnu comme une cause de divorce et les maris ne cherchent plus à traîner leurs femmes devant les tribunaux pour les faire enfermer. D'ailleurs, les magistrats enferment de moins en moins les femmes à ce moment-là. Donc, disons, c'est dans l'air du temps que d'être plus souple vis-à-vis de ce qui est encore considéré comme un délit.
Alors, on vous écoute depuis 2 minutes, 3 minutes, là, Agnès Valck, parler de la répression de l'adultère et vous n'avez prononcé que le mot femme, grosso modo.
Oui. Hein,
différence fondamentale, c'est que Que devient l'homme qui, du coup, trompe sa femme dans cette période-là ?
Il ne devient rien du tout.
Il n'a aucun souci
à se faire, sauf bien évidemment si il est surpris en flagrant délit par le cocu. Et éventuellement, le cocu peut le tuer. Et il y aura une tolérance. Le cocu qui peut expliquer qu'effectivement, il a surpris sa femme en action. Alors à l'époque, on dit action déshonnête, hein, voilà, et qu'il et que donc il a été pris d'une subite colère, ne sera pas poursuivi par les tribunaux. Et encore au 19e siècle, hein, il peut y avoir effectivement des procès pour meurtre, mais les hommes s'en sortent toujours, hein, pratiquement toujours.
Je suis sûr que là, dans nos casques, on entend au loin des gens du roi. C'est encore aujourd'hui pareil. En travaillant sur l'adultère, vous faites une histoire du genre,
oui,
les hommes, les femmes. Mais oui, vous faites également une histoire sociale, parce que le rapport à l'adultère est très différent selon si on est tout en haut ou tout en bas de l'échelle sociale aussi.
Bien sûr, tout en haut, on ne risque presque rien. Alors, pas tout en bas, parce que justement, l'historien a des problèmes pour connaître l'adultère du tout en bas, hein, puisque en tout cas sous l'Ancien Régime, les sociétés, la société est surtout une société paysanne qui laisse peu de traces écrites et qui surtout ne va pas devant les tribunaux. Donc là, il y a forcément des adultères, très certainement, mais on n'en a pas vraiment la trace. La seule chose qui peut rester, ce sont des histoires familiales qui éventuellement sont transmises de génération en génération. Ah oui, on sait que le grand-père, l'arrière-grand-père, etc., était peut-être un enfant bâtard, ça veut dire peut-être que l'épouse avait, enfin voilà, qu'on avait une grand-mère qui, bon, mais ça c'est très difficile à savoir, il faut faire des études vraiment de cas extrêmement extrêmement particuliers, donc bon, c'est sûr que c'est un petit peu difficile.
Tout en haut, en revanche, on sait,
alors,
c'est devenu un sport
sait,
aristocratique quand même,
Louis
XIV a beaucoup beaucoup œuvré, hein, dans ce sens-là, mais vous expliquez, oui, que c'est aussi une démarche stratégique et politique intéressante d'avoir instauré la maîtresse royale.
Oui, pour Louis XIV, oui, parce que Louis XIV a un problème avec sa noblesse. Louis XIV a un problème avec sa noblesse. Vous savez qu'il a été très frappé par la Fronde, qui était la révolte nobiliaire, etc. Et donc, ce qu'il souhaite réellement, c'est de faire une alliance avec cette noblesse. Il y a beaucoup de choses, hein. On a dit qu'il avait domestiqué la noblesse. Bon, eh bien, l'usage de la maîtresse royale, c'est une forme de reconnaissance de cette noblesse. Il s'allie, puisqu'il ne peut pas s'allier par mariage avec une de ses sujettes. C'est pour ça qu'il va toujours choisir, enfin, que les rois choisissent des souveraines, enfin des princesses étrangères pour se marier. Donc là, il choisit la femme selon son cœur. Et c'est extraordinaire parce que c'est la femme, c'est toujours une grande, une aristocrate, quelqu'un d'une très grande famille. Donc forcément, les gens de cette famille et même toute la noblesse, eh bien, sont très heureux de voir que le cœur du roi se porte vers l'une d'entre elles.
Et Louis XVI a pâti de ce manque de maîtresse, hein, c'est ce qu'on,
oui,
dit aussi souvent.
Effectivement, oui. Alors, mais après le roi soleil, un prince des ténèbres. Salut à toi, monsieur Dugast.
Bonjour, bonjour à tous.
Alors cette semaine, Julien, vous êtes vous aussi penché sur l'extra-conjugalité, n'est-ce pas?
Oui, uniquement à votre demande, monsieur, ouais, Collin. Voyage imaginaire ou pas au pays de l'adultère, c'est parti. Tiens, c'est bizarre, ça fait 6 mois que je sors avec Sophie et jamais elle ne m'avait donné rendez-vous dans un café. Je sais pas pourquoi, je le sens pas ce café. J'ai les mains moites, l'estomac noué. C'est sûr, elle va me larguer. Ou pire, m'annoncer qu'elle m'a trompé.
Si tous les cocus avaient des clochettes au-dessus, au-dessus de la tête, ça ferait tant de chahut qu'on ne s'entendrait plus.
Bon, ça y est, Sophie vient de m'avouer que depuis 3 mois, elle couche avec Paul, son collègue de bureau.
Là, franchement, c'est moche. Je comprends votre désarroi, Dugast.
Oui, d'autant que vous ne savez pas tout. Elle m'a même expliqué que ça aurait pu être pire. Elle aurait pu me l'annoncer par texto, ou par un mot posé, négligemment.
Ce qui m'amuse, c'est le mot qu'elle m'a laissé sur le piano. D'habitude, quand elles partent avec un autre, elles écrivent « Je pars, tu peux pas comprendre, je t'aime ». Seulement, moi, je suis désolé, je suis pas n'importe qui, et elle le sait. Alors elle me met « Je pars, tu peux comprendre, je t'aime plus ».
Je ne t'aime plus. Ok, mais est-ce une raison pour en aimer un autre, hein? Si on avait été mariés et que l'on vivait au 19e siècle, Sophie finirait en prison, pour adultère. Sauf qu'aujourd'hui, l'adultère en tant que crime n'existe plus. Et en plus, on n'est pas mariés. En même temps, j'aurais dû deviner ce qui m'attendait. Ouais, elle et moi, c'était plus pareil depuis quelque temps.
Avant, vous faisiez l'amour tous les soirs à 22h30. Vous étiez réglé comme du papier à musique, des vrais petits lapins. Et depuis quelque temps, plus rien. Qu'est-ce qui se passe, Sophie?
Le désir.
Il est là, Frédéric?
Oui.
Si on en parlait.
Ce sont des choses qui arrivent dans la vie d'un couple.
D'accord.
Mais ce qu'il faut, Frédéric, c'est dédramatiser. Parce que si tu as peur, à ce moment-là, ça va être beaucoup plus difficile de remonter la pente. Parce que c'est un cercle vicieux, c'est terrible, mais...
Je sais, c'est vrai. Mmh.
Après avoir définitivement quitté Sophie, assis dans un parc, je feuillette tranquillement un journal. À l'intérieur, une enquête. 50% des femmes avouent avoir été ou être adultères. Ça y est, je flippe. Au même instant, Nicolas me rejoint. Il m'explique qu'en ce moment, il vit deux aventures avec deux femmes mariées. Non, mais tu comprends, elles sont délaissées par leur mari, toujours au travail, aujourd'hui incapables de se souvenir des besoins de leur femme. Là, je sais pas, mais avec les confidences de Nicolas, j'ai l'impression d'être le complice d'un vol.
Au fond, l'homme qui s'empare du cœur d'une femme qui n'est pas la sienne commet un vol puisque ce cœur avait été donné à un autre. La seule différence à faire entre lui et un voleur réside dans l'assentiment de la femme, ce qui établit pleinement le partage des responsabilités.
Avachi dans mon canapé, je feuillette un livre, L'histoire de l'adultère. Quand même, ces rois de France, franchement, ils avaient des bollocks pondre le concept de la favorite sans que personne ne dise rien, pas même l'Église.
Et toi, t'es complètement jaloux des adultères royales.
Oui, mais non,
ouais,
non,
grave, enfin, bon, grave.
Franchement, si. Quand même, bravo, joli coup. Une époque qu'à mon avis, le prince Charles a dû regretter quand il s'est jeté dans la gueule du loup en 1994.
Faut avouer, à moitié pardonné, dit-on. Dans une interview accordée à une chaîne de télévision anglaise, le prince Charles reconnaît qu'il a trompé son épouse, Lady Di. L'interview n'a pas encore été diffusée, mais la rumeur a déjà fait le tour du pays, ricochant sur le palais de Buckingham et s'étalant si montivole dans tous les journaux de la presse dite populaire.
Question. Avez-vous été fidèle à votre épouse? Réponse. Oui. Le prince Charles s'arrête, puis ajoute. Jusqu'à ce qu'il soit clair pour moi que mon mariage était irrémédiablement brisé.
Bah voilà, à la fin de cette chronique, je n'ai qu'une envie, vivre seul, loin de l'adultère, des tromperies. Bref, dire non à l'économie de marché libérale, non au subprime, envie d'éviter la crise, la banqueroute sentimentale. Et puis dans l'histoire de l'adultère, une dernière page, une dernière ligne. L'adultère a cessé d'être un crime, mais l'idéal de fidélité persiste.
Merci beaucoup, Julien Dugast. Bien, dites-nous, Agnès Valk, alors on sent qu'il y a beaucoup de tentations aujourd'hui, multiples, diverses et variées, et que l'adultère, en plus, n'est plus vraiment répréhensible. Mais est-ce que l'idéal de fidélité subsiste aujourd'hui, en évocation, en écho à la dernière phrase de votre livre que Julien citait à l'instant?
Moi, c'est ce que je crois. Je le crois fortement, même si les gens ne se marient plus. Donc, c'est vrai que l'adultère n'existe plus d'une certaine manière, puisqu'il n'y a plus de mariage. Malgré tout, des gens qui vivent en couple ont quand même envie que celui ou celle avec qui ils sont soit fidèle. Voilà. C'est une donnée, je pense, quasi anthropologique, hein, et qui fonde la confiance, hein, qu'on peut avoir dans le futur, dans l'avenir. Ça me paraît absolument indispensable. Et alors c'est quand même quelque chose qui est assez extraordinaire, c'est de voir que je pense, et vous avez eu raison de le dire, qu'à une époque où on subit la crise, il y a quand même cette valeur refuge qui est le couple, et donc forcément un couple fidèle, parce que sinon ça serait très décevant.
Alors justement, le couple fidèle, enfin il existe le couple parce que il y a possibilité de se séparer. Et oui. Quand on lit votre histoire de l'adultère, on comprend bien que l'idée de séparation est vraiment au cœur de l'adultère pendant longtemps. On n'a pas pu se séparer. C'est quoi les grandes étapes qui nous ont libérés, j'ose.
Vas-y.
Non, mais vous avez dit, il n'y a plus de mariage. Déjà, certains vont hurler. Oh, le sacro, c'est un mariage et tout. Si, il reste des mariages. Mais alors, voilà, quelles sont les étapes de la libération du couple qui se déteste?
Eh bien, c'est effectivement le divorce, un premier divorce sous la Révolution française, hein, toujours la Révolution française, en 1792, un divorce extrêmement libéral, hein, puisque on pouvait divorcer en déclarant qu'on divorçait, voilà. Et puis, avec la fin de la Révolution et l'Empire, on revient à une interdiction de divorcer, mais les séparations de corps ont toujours existé, c'est-à-dire que des époux qui ne s'entendent plus pouvaient néanmoins ne plus vivre ensemble, mais avec interdiction pour chacun d'eux de se remarier, ce qui créait quand même des situations qui étaient vraiment pas tellement vivables. Hein. Et puis, au cours du 19e siècle, une critique justement de cette indissolubilité du mariage qui fait que en 1884, la loi Naquet reconnaît le divorce, mais c'est un divorce pour faute. Hein. Il faut attendre donc plus récemment, hein, les lois 1975 et puis la libération, une espèce de libéralisme, si vous voulez, judiciaire lié au mariage, qui est assez récent, pour que désormais, les divorces se fassent plutôt sur consentement mutuel, même si souvent c'est des questions d'infidélité qui sont derrière, et avec des procédures juridiques ou judiciaires, disons, allégées.
Et surtout qu'on vit de plus en plus vieux.
Oui, en plus.
Ben oui. Donc on va pas s'entendre toute une vie.
Et alors dites-nous, Agnès, est-ce que le...
Pas si, pourquoi pas.
C'est pas sûr, mais enfin...
Vous espérez. Est-ce que la structure même du mariage, en tant que... comme essence du mariage, qui a beaucoup changé au 19e siècle, n'a pas aussi beaucoup changé la perception presque morale de l'adultère? Puisque finalement, on se mariait par amour, tout d'un coup, et pour la vie. Et là, du coup, l'adultère prend une autre tournure, sans doute. Également.
Oui, on s'est toujours marié pour la vie. Et ça,
mais
ça reste
quand
même...
Mais plus par intérêt que par amour.
Voilà, disons que les mariages étaient arrangés et l'amour faisait son chemin là-dedans ou ne le faisait pas, ça dépendait. C'était des questions, des cas spécifiques. Et effectivement, au cours du 19e siècle, il y a une généralisation du mariage d'amour, mais qui triomphe plutôt au 20e siècle, hein, il faut bien le reconnaître. Mais c'est vrai qu'il y a eu une approche de plus en plus sentimentale du mariage, une approche de... Et donc, si le sentiment est à la base de l'union, plus que des stratégies familiales, d'alliances de famille ou la recherche d'intérêts financiers, eh bien, il est évident qu'il doit, d'après les commentateurs et les théoriciens du 19e et du 20e siècle, se calquer sur l'évolution des sentiments. Quand il n'y a plus de sentiments, il ne doit plus y avoir d'union.
C'est là l'escroquerie. Tout d'un coup, pourquoi est-ce qu'il faut qu'on le sentiment et boum, qu'on le valide et qu'on le... C'est ça, l'escroquerie est là. Voilà.
Monsieur Collin, oui, merci. Donc, vous nous avez parlé tout à l'heure de l'importance et de la pertinence des sources judiciaires que vous avez utilisées pour étudier l'adultère. Dites-nous, Agnès Valk, il y a quand même d'autres sources, pléthore, qui sont toutes les sources littéraires notamment. Mais avec Philippe, quand on préparait l'émission, on disait on retrouve ça, mais partout, de l'opéra, du théâtre, toute la littérature. Quelle est la figure, ou alors plutôt non, parce qu'on a déjà des éléments de réponse, quelles sont les figures de l'adultère présentées? C'est joyeux, c'est pas joyeux?
Non, c'est jamais très joyeux. Hein. Enfin, il y a deux grands, effectivement, thèmes dans la littérature, la musique, l'opéra, c'est l'amour. Et le désamour, donc c'est l'amour, l'adultère, l'infidélité, je te trompe, etc. Voilà, donc je crois que c'est vraiment un sujet extrêmement... c'est un des grands sujets en art. Et les grandes figures, c'est jamais joyeux, c'est Madame Bovary qui finit par mourir. C'est quand même toujours une image d'amour qui est attachée à la mort. Hein.
À la mort ou à la potagerie, voilà. C'est comme tout le théâtre de boulevard ou Ciel, mon mari, etc.
Oui,
il y a aussi toute cette légèreté-là qui est assez...
Vous avez raison, oui, c'est vrai.
Mais
oui,
ça flanque
oui,
la trouille, en fait, peut-être. C'est aussi une manière...
C'est une manière d'exorciser les craintes, hein, parce que tout ce théâtre de boulevard est extraordinaire, parce que c'est une critique sociale qui est extrêmement venimeuse, hein, contre les classes bourgeoises, les gens qui s'enrichissent, etc., contre les faux-semblants, en réalité, des existences, le fait qu'effectivement, il n'y a pas de transport, qu'il y a tout est construit sur le mensonge et c'est vraiment là ça dénonce plutôt je dirais l'organisation sociale hein, à travers l'amour, c'est ça qu'on dénonce.
Alors pour terminer, Agnès Valk, on évoque ici l'adultère avec une certaine légèreté autour de cette table. Néanmoins, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, dans une bonne partie du monde, il y a des vraies disparités et qu'aujourd'hui encore, des femmes adultères sont lapidées. Et c'est vrai que c'est une dimension qu'il ne faut pas perdre de vue quand on parle de l'adultère aujourd'hui encore, n'est-ce pas?
Ah oui, c'est tout à fait vrai. Alors, elles n'ont jamais été lapidées en France. Hein. En Occident, le traitement était un petit peu différent, hein, néanmoins. Mais c'est vrai que là, c'est la part, je dirais, un peu anthropologique hein, de ce thème qui peut faire sourire et qui est quand même tout à fait universel. C'est qu'effectivement, il y a encore beaucoup de pays et donc de cultures qui tolèrent tellement peu les infidélités féminines qu'elles envoient.
Et encore une fois, exclusivement
féminines. Hein, tout à fait.
Bien sûr.
Oui, et avec une déviance encore de la chose, parce que des adultères qui auraient pu être tolérés il y a quelques années par une dérive un peu extrême de la chose fait que ce n'est plus toléré. Ce n'est pas intrinsèque non plus à certaines cultures. Voilà. On le sait tous.
Bien sûr. Merci beaucoup, Agnès Valck. Nous rappelons le titre de votre ouvrage, Histoire de l'adultère du 16e au 19e siècle.
C'est chez Perrin.
Disponible aux éditions Perrin. Voilà, merci à vous. À bientôt.